Merci Anne Fauquemberg, on vous retrouve à 9h pour le journal. Bonjour à toutes et à tous.
This is Bob Woodward of the Washington Post.
Bob est un bon journaliste, un type bien et un rédacteur compétent.
Nous avons quelques informations sur ce sujet par d'autres sources et bien sûr on veut faire des recoupements.
This is terrific stuff. Where did you get it?
Trouvez une autre source. Ben merde.
Ce type est bon. Il est aussi bon journaliste que tous ceux avec qui j'ai travaillé.
Le secret des sources. Frédéric Barrère.
Bienvenue dans le secret des sources et les coulisses de l'information. 5 années de guerre en Syrie et rien ne dit que la 6e année de conflit sera la dernière, même si les troupes du régime syrien, qui viennent de reprendre Palmyre, continuent de gagner du terrain face au groupe État islamique. La Syrie, une zone noire pour les journalistes. 72 reporters sont morts en Syrie depuis 2011, journalistes étrangers, journalistes syriens, mais aussi des citoyens journalistes. Pourtant, les journalistes continuent de faire leur travail, d'informer sur la Syrie, ses horreurs, ses atrocités et de la folie barbare dans le pays, même s'ils sont peu nombreux à se rendre en Syrie. Comment les journalistes travaillent-ils sur ce conflit? Comment rendre compte de cette guerre qui dure depuis 5 ans? On en parle ce matin dans le secret des sources avec nos invités, tous grands reporters et correspondants de guerre. Claude Guibal, grand reporter à France Inter, vous venez de publier chez Stock Islamistan, visage du radicalisme. François-Xavier Trégant, grand reporter et auteur avec Thomas Dandois du documentaire Daesh, parole de déserteur, diffusé sur Arte. Georges Malbruno, également grand reporter au Figaro, votre dernier livre avec Christian Chesneau, Les chemins de Damas, le dossier noir de la relation franco-syrienne est publiée chez Robert Laffont. Jean-Pierre Perrin de Libération, spécialiste du Moyen-Orient. Je rappelle votre dernier livre, La mort est ma servante, lettre à un ami assassiné chez Fayard. Omar Waman est également avec nous en duplex de Beyrouth, correspondant de Radio France et de France Culture au Liban. Et vous rentrez, Omar, de Syrie où vous étiez aux côtés des combattants kurdes. Notre chroniqueur et regard extérieur aujourd'hui, Fabrice Lorvaux, avocat, spécialiste du droit des médias. Le clin d'œil de la semaine de Yacine Bouzard dans les coulisses de l'émission. Mathias Mégy, Vincent Abouchard avec aux manettes aujourd'hui, Jacques Hubert. Vos commentaires, vos réactions sont les bienvenus sur notre site franceculture.fr. N'hésitez pas à nous écrire, vous êtes chez vous sur France Culture et dans le secret des sources.
Avant la guerre, Zaïn étudiait le français à l'université. Il est devenu journaliste, il a fondé une agence de presse pour tenter de faire parvenir au monde les souffrances du peuple syrien dans sa propre ville.
On peut mourir tué par un sniper du régime, sous un baril d'explosifs lancé par le régime, ou encore recevoir des éclats d'obus comme ça m'est arrivé en couvrant des combats.
Le secret des sources.
Voilà un reportage diffusé sur France 3. Alors, aller en Syrie aujourd'hui, faire son travail de journaliste, oui, c'est possible, mais pas n'importe où, pas n'importe comment. François-Xavier Trégant, vous avez vécu plusieurs années, 6 ans en Syrie. Aujourd'hui, y retourner pour vous, c'est possible?
Non, pour moi ce n'est pas possible. Quand on a fait ce film avec Thomas Dandois, on avait une règle.
Daesh, parole de déserteur.
On avait une règle, rester positionné dans cette ville turque de Sanlurfa, qui est à 50-60 kilomètres de la frontière syrienne, et notamment en particulier du poste frontalier de Tel Abyad. Et tout notre travail s'est fait de cette zone-là, d'abord pour la sécurité des personnes qui acceptaient de nous parler. Mmh. On aurait pu partir avec elle côté syrien, on a refusé, on aurait mis tout le monde en danger, nos sources principales, nos intermédiaires, disons les fixeurs, etc., et notre propre sécurité.
Claude Guibal de France Inter, il faut continuer à aller selon vous en Syrie malgré le danger, malgré le fait qu'il n'est pas possible de travailler totalement librement?
Difficile de répondre, oui, il faut continuer à informer sur la Syrie. Il faut aller là où on peut aller, de tous les côtés, côté régime, côté rebelle, il faut informer. Quand on s'informe avec les reporters syriens, il faut leur donner les moyens au maximum de leur travail, de recevoir les informations que sont souvent aujourd'hui les seuls à pouvoir nous faire parvenir dans certaines zones.
Georges Malbruno, est-ce que le Figaro continue d'envoyer des reporters, des journalistes en Syrie?
Alors, on n'envoie plus de journalistes côté rebelles puisque les conditions de travail sont très difficiles. Comme François-Xavier le disait, il y a une exposition au risque qui est extrêmement importante. En revanche, je continue d'aller à Damas de temps à autre lorsque j'arrive à avoir un visa. Et ça m'a été extrêmement utile, non pas en rencontrant des Syriens, mais en rencontrant justement des sources indépendantes. Là-bas, il y en a de moins en moins, mais il y en a encore, et qui permettent justement de s'extraire de cette polarisation et de cette guerre entre les uns et les autres, et de cette guerre de propagande que se mène le régime et l'opposition.
Quand vous êtes à Damas, Georges Malbruno du Figaro, côté régime, territoire tenu par le régime, vous êtes surveillé, quelqu'un vous accompagne, on note
alors,
vos déplacements.
Ça fait 25 ans que je vais en Syrie, j'ai été interdit de séjour pendant des années, ensuite j'ai pu y revenir, on me connaît un peu, donc j'ai acquis une espèce de... parfois de liberté. Bon, mais lorsque vous avez trop de liberté, bah, la fois d'après, on vous colle un type du ministère de l'Information parce que vous avez pris trop de liberté. Alors, évidemment, c'est plus facile de travailler en Syrie quand on a 25 ans d'expérience, qu'on a ses propres contacts, quand on n'a pas de caméra sur soi, quand on n'a pas de micro, etc. On a ses propres sources. On peut encore travailler, voilà, c'est pas très facile, mais voilà, on peut quand même encore voir des gens, notamment des Nations Unies, qui sont là-bas et qui sont en contact avec les deux côtés. Et c'est moi, je considère que c'est grâce à eux, grâce à Mokhtar Lamani, qui était en contact avec aussi bien les gens du régime et les rebelles par Skype, et qui avait ce regard à peu près neutre, et qui, dès le début, m'a dit, effectivement, il n'y a pas une opposition, mais des oppositions, le régime n'a qu'une réponse, c'est le bâton, les rebelles ont peu de sens politique, l'opposition, etc. Et donc, un discours qu'on n'entendait pas forcément à Paris, où on était dans une logique plus de soutien très marqué à l'opposition.
Jean-Pierre Perrin de Libération, vous vous êtes rendu régulièrement en Syrie, Homs, Alep notamment, pour des séries de reportages très remarquées. Vous n'y êtes pas retourné depuis combien de temps, Jean-Pierre ?
Depuis 3 ans, je crois, quelque chose comme ça, mais juste une petite précision.
Allez-y.
Moi, j'ai toujours été obligé d'aller du côté rebelle parce que je sais que ma vie du côté du régime serait menacée. Déjà avant la révolte syrienne, avant 2011, donc, j'avais des copains qui se rendaient en Syrie. Évidemment, il n'y a pas encore la guerre, pas encore la rébellion. Et on leur, au ministère de l'Information, quand ils faisaient la visite un peu obligatoire au ministère de l'Information, on leur demandait des nouvelles de moi-même. Donc, et quand ils revenaient, ils me disaient surtout, n'y va pas. Ils me posent des questions assez embarrassantes sur toi.
Pour des articles que vous avez écrits.
Pour des articles, oui.
Alors, Jean-Pierre Perrin, vous avez publié un Libération spécial le 11 mars dernier. On était partenaire avec France Culture et Libération pour une journée spéciale Syrie, la guerre qui change le monde. Mais ce numéro spécial de Libération a entièrement été réalisé par des journalistes et des artistes syriens. Longue préparation, comment avez-vous fait ?
À part l'éditorial.
À part l'éditorial, que vous signez avec Marc Sémaux.
Absolument. Ouais. Oui, alors finalement, cela n'a pas été aussi difficile à faire que cela, premièrement. Et la deuxième chose, c'est que nous avons été extrêmement surpris par la qualité des reportages et du travail accompli par les journalistes syriens. Moi, je m'attendais très franchement à ce que les papiers soient très orientés, à ce que ça soit un petit peu une déclinaison sous une ou une autre d'une forme de propagande. Mais là, pas du tout. Je dis pas que les papiers sont à 100% objectifs, neutres, tout ça, je n'en sais rien. Mais ils sont honnêtes. Ils ne disent, ils ne cachent rien de la réalité que les journalistes syriens traversent, que ce soit à Raqqa, que ce soit à Alep, que ce soit dans d'autres villes. Alors, ils ont atteint un professionnalisme auquel je ne m'attendais pas. Et ça, c'est assez remarquable. Et la deuxième chose, bon, faut saluer quand même la personne qui a mis en scène tout ça, le chef d'orchestre qui est une journaliste franco-syrienne qui travaille régulièrement pour Libération, notamment, qui est à Alaa Kodmani, voilà, ouais. Qui est en contact avec tous les journalistes syriens qui travaillent. Mais parmi eux, alors évidemment, il y a des propagandistes, mais il y a aussi des gens qui essayent de faire leur travail comme nous aimons le faire.
Oui, il y a des journalistes d'Idlib, de Raqqa, qui racontent le quotidien de cette guerre, la vie sous les bombes dans les villes détruites pendant 5 ans.
Et vous avez des experts militaires, expert militaire notamment, qui dit ce que nous disons absolument avec quasiment les mêmes mots, en disant, non, cette opposition, elle n'est pas à la hauteur. Vous voyez, c'est extraordinaire quand même. C'est-à-dire, on ne s'attendait pas à ce qu'il y ait un discours de vérité tenu par l'opposition syrienne, parce que ces journalistes sont quand même proches de l'opposition, de cette qualité-là.
Votre éditorial, donc, signé avec Marc Sémaux, s'intitule « Herbicide », donc un terme qu'on a mieux appréhendé lors de du conflit de l'ex-Yougoslavie, formé d'urbains et de génocide, de la destruction des villes. Et vous rappelez, vous nous rafraîchissez la mémoire quand même, je crois que vous avez bien fait, Jean-Pierre Perrin, en nous parlant de la visite de François Mitterrand en 1984, 2 ans après, en 82, l'assassinat de l'ambassadeur Louis de Lamarre.
Et peu avant celle de l'assassinat de l'attaché militaire français.
Et la France, mais pas que, a mis beaucoup de temps à comprendre que ce régime reposait sur la torture et la violence.
Oui, mais bien sûr, mais enfin, la littérature syrienne, c'est-à-dire des écrivains, pas forcément des journalistes, des écrivains ne parlent que de ça dans leurs romans. La torture, elle est sous-jacente à toute la littérature syrienne. Elle est abordée toujours d'une façon ou d'une autre, et ne pas avoir voulu voir que ce régime régnait essentiellement par la torture. Bon, je crois que c'est un petit peu, ils sont un peu comptables de la situation actuelle.
Vous voyez ces maisons là-bas ? Eh bien, les djihadistes se cachent à l'intérieur. Ils sont à 2 kilomètres environ, et parfois ils tentent d'avancer en se faisant passer pour des bergers au milieu d'un troupeau de moutons, mais nous arrivons à les repérer facilement. Nous avançons progressivement, nous n'avons jamais été aussi proches de Raqqa.
Et sur cette ligne de front, la tension est palpable. Chaque véhicule en provenance du territoire contrôlé par les djihadistes est considéré comme ennemi. Ici, c'est un pick-up rouge qui se dirige vers nous. Il se trouve à moins de 2 km, l'un des combattants kurdes reçoit l'ordre d'ouvrir le feu. Le véhicule rebrousse chemin, on apprendra plus tard.
Voilà un reportage d'Omar Waman, près aux abords de Raqqa, diffusé le 11 mars dernier sur France Culture. Omar Waman, en duplex avec nous de Beyrouth, vous êtes l'un des rares journalistes français à vous rendre en Syrie. Vous êtes rendu au début de la guerre, au printemps 2011. Et Omar, vous rentrez tout juste de Syrie, de la zone contrôlée par les Kurdes. En 5 ans de guerre, Omar, est-ce que cela devient de plus en plus compliqué de travailler en Syrie?
Oui, ça s'est dégradé. En ce qui me concerne, moi, je ne suis allé que dans les zones rebelles, en passant notamment par la frontière turque. La première fois en juin 2011.
Un peu ce que nous disait Georges Malbruno, qui lui était côté régime, ça lui interdit les zones rebelles. Et vous, c'est pareil de l'autre côté?
Ah oui, moi, c'est-à-dire que à l'époque j'étais reporter à la rédaction de France Culture, je partais un peu partout et notamment en Syrie. Et lorsqu'il y a eu la bataille d'Alep l'été 2012, il fallait partir tout de suite et donc c'était le moyen le plus simple était de passer par la frontière turque. Et depuis, je suis correspondant ici à Beyrouth, au Liban. Faut savoir que une règle en vigueur aujourd'hui en Syrie qui consiste à dire que tous les journalistes ayant été dans les zones rebelles, alors ils disent pas rebelles, ils disent zones terroristes, tenues par les terroristes, eh bien, sont des journalistes qui sont persona non grata à Damas.
Lors de votre premier reportage, juin 2011, là, vous voyez ce qui se passe et vous êtes arrêté par des djihadistes à ce moment-là.
Alors c'était la dernière fois que j'y suis allé par cette frontière turque. Je suis allé par la suite à Kobané, mais bon, la question kurde est vraiment différente à part. En tout cas, c'était printemps 2013, effectivement, entre Hama et Idlib. Je rentrais d'une zone qui est magnifique, qui est Jbel Zawiya. Ce sont des ruines romaines avec des cavités dans lesquelles les Syriens allaient se réfugier pour échapper au bombardement. Et sur la route, en partant vers Alep, effectivement, on a été arrêté par un petit groupe de djihadistes. Alors, ils étaient vraiment identifiés comme très radicaux, des Tunisiens, et là la première question a été de me demander si j'étais musulman, question à laquelle évidemment il faut répondre oui. Ensuite ils m'ont demandé si je savais prier, et en fait moi je sais pas prier, et il se trouve que j'ai un oncle qui, lorsque j'avais 5 ans, a tenu à me faire rentrer dans ma tête un certain nombre de sourates. Il y en a une qui est restée gravée dans ma mémoire, et c'est cette sourate qui m'a permis d'échapper vraisemblablement à une arrestation. Ils m'ont laissé partir avant de me demander de les rejoindre, de faire le djihad, que le journalisme ça ne servait à rien. C'est bon. Alors, en tout cas, quand je rentre de ce dernier reportage dans la région, je vois Jean-Luc Hesse, qui était le président de Radio France, et je lui dis qu'il n'est plus possible de travailler aujourd'hui dans ces zones-là, que c'est très dangereux, trop dangereux. Et 2 mois après, Édouard Elias, Didier François, Nicolas Hénin et Pierre Torres sont arrêtés.
Merci Omar, vous restez avec nous. On vous retrouve dans un instant à Beyrouth.
On se retrouve donc ici à Damas. Bonsoir Monsieur le Président.
Bonsoir.
For most French,
pour une grande partie de la France, Vous êtes en large part responsable du chaos qui règne en Syrie à cause de la brutalité de la répression. Selon vous, quelle est votre part de responsabilité ?
Dès les premières semaines du conflit, les terroristes se sont infiltrés en Syrie avec l'appui d'États occidentaux et régionaux.
Voilà Bachar al-Assad interrogé par David Pujadas sur France 2 le 20 avril 2015. Georges Malbruno, vous êtes l'un des très rares journalistes à avoir interviewé le président syrien. Vous l'avez rencontré avant David Pujadas, vous l'avez rencontré en septembre 2013. L'interview est publiée dans votre journal Le Figaro le 3 septembre. Alors c'est une période très particulière de la guerre avec des attaques à l'arme chimique l'été qui précède dans la banlieue de Damas. La ligne rouge qui est franchie, une ligne rouge fixée par les États-Unis. La France veut intervenir. On va reparler du contexte, mais pour obtenir l'interview de Bachar el-Assad, j'imagine que tous les spécialistes de cette région font des demandes. Pourquoi vous ?
Pourquoi moi ? Ouais. Je pense que, moi, dès le début de la révolte syrienne, je me suis dit, il y a un pays qui doit être visé par l'aspiration à la liberté, c'est la Syrie, parce que, pour les raisons qu'on a évoquées, c'est une dictature, mais il y a un régime qui est capable d'affronter cette révolte, c'est le régime syrien, parce que ils ont, en 40 ans d'expérience, on a parlé de Hamas, professionnalisé un système de répression extrêmement féroce. C'est un régime minoritaire qui joue sa survie, qui a des alliés. Et contrairement à ce qu'on voulait nous faire croire en France, ça n'est pas un peuple contre le régime, c'est une partie du peuple, effectivement, contre un dictateur, etc. Donc, effectivement, moi, j'ai pu retourner, après avoir été interdit de séjour pendant 5 ans, en 2006, parce que j'avais écrit des choses sur les Alaouites, la minorité à laquelle appartient Assad, sur les services de renseignement, on me dit, vous avez franchi la ligne rouge, et donc, vous êtes puni. Bon, bref, j'ai pu retourner en 2011 en Syrie, c'est à l'époque où il y avait encore des ambassades, il y avait notre ambassadeur là-bas, en août 2011, à la fin de la période de la révolte pacifique, et j'ai vu des gens, justement, qui m'ont dit le régime est encore solide. Donc j'ai raconté le régime qui brutalisait, qui tirait dans les genoux pour empêcher justement ces manifestants de continuer de manifester. Et puis j'ai aussi dit, écrit, que le régime était encore solide. Et puis j'ai aussi écrit que cette opposition était divisée, elle était instrumentalisée, infiltrée par les islamistes et notamment par le Qatar. Donc si vous voulez, au fil du temps, donc on a raconté les exactions du régime, mais j'ai aussi dit que l'opposition, hélas, elle avait aussi peu de sens politique, etc. Et donc je pense que ce qui s'est passé dans la tête du régime syrien, c'est qu'ils se sont dit effectivement, en France, il faut bien reconnaître que la presse était extrêmement allante pour condamner le régime. Et moi, j'ai dit au Figaro, attention, ce régime, c'est un régime de brutes. Et donc, ils vont tenir, et donc, ils vont pas tomber demain. Et donc, je pense que c'est ça. En fait, ils m'ont dit, effectivement, on a vu en France, il y a eu une vague comme ça, de tout le monde nous condamnait, etc. Et le Figaro est resté, voilà, dire, voilà, il y a de la répression féroce, et puis, mais il y a aussi une opposition qui est islamisée, etc. Bon, je pense que c'est une des raisons pour lesquelles ils ont choisi le Figaro par rapport à d'autres journaux qui étaient dans une position plus excessive peut-être par rapport au constat et à ce qui s'est passé dans la réalité.
Et puis c'est sans doute aussi le moment en septembre 2013 pour Bachar el-Assad de
ah oui,
de
oui s'exprimer. Bah, il communique. Ouais, pour une fois, ils ont. Moi, je leur ai dit d'ailleurs. J'ai dit à son attaché presse. J'ai dit pour une fois, vous n'êtes pas la Corée du Nord. Vous êtes vous réagissez intelligemment parce qu'effectivement il y avait François Hollande qui voulait les punir et donc ils se sont dit on va communiquer avec la France, donc on a pris un journal, etc. Et donc il y a eu des réactions qui étaient d'ailleurs à mon sens déplacées.
Voilà, c'est ça. Dans le contexte, cette interview où Bachar el-Assad menace la France, puisqu'il dit ceux qui menacent les intérêts syriens sont nos ennemis. Cette interview est très, elle plaît pas à tout le monde. Vous l'avez dit à François Hollande.
Bah oui, c'est quand même
sur le ton ironique. Vous remerciez.
Oui, c'est quand même assez déplacé. Parce que, au même moment, si vous voulez, ou quelques jours après, il y a CBS qui a eu une interview, on n'a pas entendu Barack Obama aller donner une leçon. Ce qui s'est passé, c'est que François Hollande a eu le sentiment, je pense, d'avoir été abandonné en race campagne. Donc, il avait quelque part perdu la face, et donc le journaliste était le bouc émissaire facile, mais effectivement, je veux dire, c'est pas parce qu'on interroge Bachar el-Assad qu'on cautionne, évidemment, et donc c'était des remarques que moi et mon journal avons trouvé déplacées.
Jean-Pierre Perrin, il faut donner les deux versions. L'interview, c'est nécessaire d'interviewer Bachar el-Assad.
Oui, bien sûr. Oui. Alors, moi, personnellement, j'ai déjà rencontré également Bachar el-Assad, mais c'était à Paris. Simplement, je voudrais dire un petit point. C'est pas parce qu'on soutient une rébellion que l'on soutient forcément les composants de la rébellion. C'est, on fait une différence quand même là-dessus. C'est-à-dire, on n'a jamais, nous, caché les faiblesses de cette opposition, son islamisation progressive, le fait qu'elle manque évidemment de sens politique, qu'elle est extrêmement divisée, qu'elle est entre les mains de puissances qui jouent un rôle extrêmement négatif sur le terrain. On n'a jamais caché le rôle néfaste de l'Arabie Saoudite ou du Qatar. Pas toujours d'ailleurs, mais dans certaines fois. Et donc, je crois qu'il faut relativiser quand on dit on soutient l'opposition. Non, on soutient la révolte, l'aspiration à la liberté, ce qui n'est pas du tout la même chose. Quant au régime, évidemment, on le voit de plus loin que Georges, mais on suit quand même ce qui fait un peu au jour le jour quand même. Donc, c'est vrai, on est en faveur de la liberté des Syriens, mais on ne peut pas dire qu'on soutient les composantes de cette rébellion très très polymorphe.
Comment s'en fait les retours sur vos articles, puisque vous avez été blacklisté pendant un moment, vous voulez être Jean-Pierre Perrin, c'est l'ambassade syrienne à Paris, c'est Internet, c'est...
On le sait quand on y retourne. Ouais. Moi, j'y suis allé l'an dernier, par exemple, dans la région Alaouite, en décembre 2014. Et effectivement, et j'y suis allé seul avec un ami banquier qui me sert d'interprète, etc., sans minder du ministère de l'Information, etc. Et donc, j'ai vu des gens, j'ai fait un papier assez dur qui reflétait la réalité sur l'inquiétude des Alaouites qui commencent à parler, critiquer Bachar parce qu'il les a mis dans une situation extrêmement délicate. Et quand j'y suis retourné, j'ai eu du mal à avoir mon visa. Le ministre de l'Information a mis à côté de la signature, il faudra qu'il soit suivi la prochaine fois qui viendra. J'y suis retourné, donc on m'a mis un jeune type du ministère de l'Information, un peu bedonnant, chrétien, parlant le français, et qui effectivement m'a suivi à l'attaquer Tartous, et il a fallu que le soir je sorte seul et j'avais mes propres contacts pour, voilà. Donc on arrive toujours à trouver des moyens, mais c'est un régime qui a toujours surveillé les journalistes, qui ne les aime pas, etc. Donc a fortiori aujourd'hui, donc c'est pas facile, mais on peut encore travailler si on a un peu d'expérience.
Un point quand même, très brièvement, c'est quand même l'affaire du centre d'information de Homs, qui, à mon avis, a été délibérément visé par le régime, ce qui a provoqué donc la mort de certains de nos confrères français, américains.
Vous dites dans une série de reportages qu'ils tirent délibérément sur les journalistes.
Oui, absolument. Alors, en plus, le photographe avec qui j'étais, qui était blessé lors de cette attaque, alors, c'est vrai que la ville était entièrement... toute la journée pilonnée par l'artillerie syrienne et qu'il est difficile de savoir s'ils ont vraiment visé intentionnellement le centre de presse. Il semble que oui, quand même.
Probablement.
Et ce que il avait, lui, a eu un camarade libanais qui était officier des forces libanaises et qui lui avait dit avoir capté une conversation téléphonique entre des officiers du régime lui disant « Si vous prenez des journalistes occidentaux dans les zones rebelles, vous les tuez et vous leur faites porter la responsabilité sur les rebelles.
Voilà. » Claude Guibal, c'est vrai que interviewer Bachar el-Assad entraîne beaucoup de critiques, peut-être un peu de jalousie de certains confrères.
J'imagine. Enfin, en même temps, je trouve assez ahurissant qu'en tant que journaliste, on puisse se poser la question d'aller poser des questions à quelqu'un. Par contre, la complaisance est une autre chose, le manque de contexte, de contextualisation, etc. Mais aller poser des questions à Bachar el-Assad, comme l'a fait Georges Malbruno, comme l'a fait David Pujadas, comme l'ont fait d'autres journalistes, je vois personnellement pas de problème à condition que ce soit fait évidemment de façon professionnelle.
Omar Waman, vous à Beyrouth, vous vouliez intervenir sur ce point-là, une interview de Bachar el-Assad que vous pourrez jamais réaliser.
Ah, je ne sais pas. Peut-être
on adorerait.
Tu seras en visa avec les Turcs aussi, peut-être.
Un visa. Mais en tout cas, moi j'ai trouvé que le procès qui avait été fait à Georges était un mauvais procès.
Il n'y a pas eu grand-chose.
En tout cas, ce qui est certain, c'est que si on se met, nous, journalistes, à interviewer que des gens fréquentables, je pense qu'on va réduire très. Exactement. Donc je pense que. En même temps, aujourd'hui, on a du côté du régime, c'est l'interlocuteur. On pensait tous au début de cette révolution qui a tourné en guerre civile que Bachar el-Assad allait vraiment disparaître. Et finalement, il s'est maintenu. Il est au pouvoir. Il est incontournable. Et avoir sa parole, recueillir sa parole, est à mon sens un acte journalistique fort.
Children of the revolution.
is good for my voice. But you won't fool the children of the revolution. Now you won't fool the children of the revolution.
Le groupe britannique T-Rex sur France Culture, Children of the Revolution.
Le secret des sources, Frédéric Barrère.
Et oui, le secret des sources, comment travailler en Syrie avec nos invités Georges Malbruno, Claude Guibal, Jean-Pierre Perrin, François-Xavier Trégan et Omar Waman. Alors, Fabrice Lorbeau, chroniqueur et avocat spécialiste du droit des médias. Fabrice, on a parlé des difficultés pour les journalistes à travailler dans les zones de guerre où il est difficile d'obtenir des informations. Mais des questions se posent également sur la possibilité de publier ces informations, surtout lorsqu'il est question d'opérations secrètes de l'armée. Quelles sont les limites du droit à l'information, Fabrice, et du secret de défense nationale?
Alors, cette délicate question vient de nouveau d'être posée à l'occasion d'un article publié par Le Monde le 24 février 2016, qui était intitulé « La France mène des opérations secrètes en Libye ».
Et que révélait cet article ?
Eh bien, cet article révélait d'abord qu'en Libye, il y avait justement des opérations secrètes à l'initiative de l'armée française et des services secrets. Ça, c'était le principe. Et qu'elle attribuait aussi l'élimination d'un haut responsable en novembre 2015 à l'armée française de l'État islamique. Et donc, bien sûr, ça n'a pas du tout plu au ministre de la Défense qui a lancé une enquête pour compromission du secret défense.
C'est quoi la compromission du secret défense alors pour le journaliste?
D'abord, le secret défense, c'est porter atteinte à un secret qui a pour objet la sauvegarde des intérêts fondamentaux de la nation. Il faut rappeler que l'accès à certains documents et à certaines informations est limité uniquement à des personnes habilitées. Alors, il y a trois classifications. Il y a le très secret défense et le moins élevé étant confidentiel défense. Et la compromission du secret, eh bien, c'est le fait de porter à la connaissance d'une personne non habilitée et à la connaissance du public une information classifiée.
Et là, quels sont les enjeux en présence ?
Il faut trouver le juste équilibre entre deux objectifs fondamentaux dans une démocratie. Le premier, c'est la protection des intérêts fondamentaux de la nation. Et le second, c'est effectivement le droit à l'information du public. Alors, pour la protection des intérêts fondamentaux, en dépit du droit de savoir et de la transparence qui est tout le temps revendiquée, on a quand même conscience que tout le monde ne peut pas tout savoir et que certaines informations doivent être effectivement dissimulé, mais il ne faut pas que cette dissimulation permette de protéger soit des intérêts privés, soit des fautes commises. Et à l'inverse, au niveau du droit à l'information du public, il faut rappeler que c'est une liberté fondamentale essentielle pour la démocratie, mais elle n'est ni générale ni absolue. Elle peut être limitée, c'est ce que nous dit l'article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, à trois conditions, que ce soit prévu par la loi, c'est le cas du secret défense, que cette loi vise un but reconnu légitime par la Convention. Ben là, on a la sécurité nationale ou la sauvegarde des informations confidentielles, et surtout que cette limitation soit nécessaire pour une société démocratique. Alors, c'est là où, effectivement, on a peut-être un point, puisque la jurisprudence européenne reconnaît que certaines informations doivent être diffusées lorsque elles concernent un sujet d'intérêt général.
Quelles sont les personnes visées par la compromission du secret défense?
Alors, selon vous, il y a deux catégories de personnes. Il y a la personne habilitée secret défense, et donc là, la loi prévoit des sanctions pénales lourdes lorsque la violation est volontaire, c'est 7 ans de prison et 100 000 euros d'amende, et lorsqu'il y a une violation par imprudence, c'est 5 ans et 45 000 euros d'amende. Mais la loi aussi sanctionne une personne qui, elle, n'est pas habilitée secret défense et qui va compromettre ce secret défense. Et là, c'est 5 ans de prison et 75 000 euros d'amende.
Et pour les journalistes, c'est différent. Qu'est-ce qu'on risque ?
Alors, pour les journalistes, ils peuvent être inquiétés à double titre. Le premier, c'est lors de l'identification de la personne qualifiée secret défense qui a violé son secret. Hein, on rappelle effectivement que la loi sur la presse interdit à ce qu'un journaliste soit obligé de révéler sa source. Mais on peut quand même enquêter lorsque l'information a porté atteinte en cas d'impératif prépondérant d'intérêt public. Et le journaliste peut aussi être inquiété en cas de publication de l'information. Et là, ça sera à lui d'essayer de mettre en avant qu'il a agi dans l'intérêt général.
Brièvement, quelques exemples de journalistes.
En 2007, journaliste du Monde, Dasquier, Monsieur Dasquier, qui était en possession de notes de la DGSE et qui avait rédigé un article sur les attentats du 11 septembre, avait été mis en examen, 40 heures de garde à vue, et tout ça pour aboutir à un non-lieu en 2014. On peut citer en avril 2013 des journalistes d'OVNI qui avait été uniquement auditionné pour avoir publié un document confidentiel défense sur la nouvelle plateforme d'interception judiciaire. Et dernièrement, donc en septembre 2015, trois journalistes ont été condamnés par la cour d'appel à 2000 euros d'amende avec sursis pour avoir révélé le nom d'un espion dans un livre L'espion du président.
Merci Fabrice Lorvaux.
Quand j'ai rejoint l'État islamique, j'ai rejoint un califat islamique. Mais quand j'ai vu la bataille de Shaytat, j'ai été secoué. Où est l'islam dans le fait d'égorger un enfant? Où est l'islam quand j'égorge une femme? Où est l'islam quand on prend des femmes comme esclaves alors qu'elles sont elles-mêmes musulmanes? C'est pas ça l'islam. Tout ça, je l'ai vu de mes propres yeux. On jetait des gens dans des fosses communes par milliers. Des enfants. Un jour viendra. L'État islamique tombera. Et là, on saura que j'ai dit la vérité. Mon nom est Abu Oussama Eshami, syrien, de Raqqa. Je suis un déserteur de l'État islamique.
Voilà, extrait de votre film, François-Xavier Trégan, avec Thomas Dandois. C'est le début hein, du documentaire Daesh, parole de déserteur. Et on vient d'entendre Abu Oussama Eshami, donc un Syrien. François-Xavier Trégan, pour réaliser ce documentaire, vous êtes en relation avec l'organisation Souaraka, qui exfiltre des djihadistes de l'État islamique qui veulent déserter. Alors pour vous, il faut convaincre à la fois l'organisation et également les déserteurs de vous parler.
Complètement. Le tournage a duré six mois et demi, de fin août à mi-fin janvier quasiment, de cette année. Et d'abord, il a fallu construire une relation de confiance avec l'Iwasu Raqqa, donc la brigade des révolutionnaires de Raqqa, qui organise l'exfiltration. Ça a pris énormément de temps. Mais il faut aussi savoir que nous avons été contactés avec Thomas Dandois par ce groupe. Voilà, ils nous ont contactés à la fin du mois d'août de Turquie, à la faveur d'un déplacement à l'étranger qui n'avait rien à voir, qui était le Yémen, où j'ai vécu quelques temps dans le cadre de mon métier. Et voilà, un ami commun nous a mis en relation. Ils nous ont contactés car ils avaient envie, qu'on valorise très clairement leur travail, qu'on le fasse mieux connaître. Et ensuite, ils souhaitaient nous présenter à des déserteurs pour écouter, entendre et diffuser cette parole non filtrée, non passée par le filtre de la propagande du groupe État islamique de Daesh. Ces déserteurs voulaient véritablement raconter. Les entretiens ont duré plusieurs heures, parfois des dizaines d'heures avec chacun, étalés donc sur quasiment six mois. Disons, il y avait une volonté commune. Mais tout cela, naturellement, a demandé de tisser des liens très particuliers, de confiance, de leur montrer au fur et à mesure que l'on avançait dans le tournage comment le montage allait se faire, comment ils allaient apparaître à l'écran, que leurs paroles n'allaient pas être coupées juste dans l'intérêt d'une sale curiosité pour garder juste la phrase choc qui ensuite s'emboîte avec une autre phrase choc. Pas du tout. Ils ont écouté, ils ont regardé et donc tout doucement une relation de confiance est apparue jusqu'à rencontrer quatre déserteurs.
Comment êtes-vous sûr que ce ne sont pas des infiltrés, qu'ils ne vous manipulent pas, qu'ils se livrent?
Bien sûr, c'était avec Thomas Dandois. Ouais.
Ce sont les personnes qui ont du sang sur les mains.
Bien sûr, ils ont du sang sur les mains, même s'ils n'ont pas souhaité le raconter face caméra. Ils en ont parlé en off, donc je ne vais pas en parler naturellement. Mais si vous voulez, on a gardé à l'écran quatre déserteurs. On en a rencontré beaucoup d'autres. Et nous avons pris la décision de ne pas poursuivre avec certains. Car autant on demandait des éléments vidéo, photographiques, des éléments textuels, écrits, qui pouvaient nous permettre de mieux comprendre l'itinéraire et la personnalité de ces combattants. Et parfois, on avait vraiment des doutes qui étaient trop forts et on a arrêté, même après plusieurs semaines de rencontres, avec certains.
Voilà. Alors, pour tous ces témoignages que vous nous montrez, ces quatre témoignages que vous nous montrez, il y a un moment donné, un déclic qui se fait chez eux, et ils se disent, là ça va pas du tout, il faut que je déserte, et à ce moment-là, pour eux, on comprend que ça peut être le corps d'une femme en robe de mariée, le corps décapité, qui fait que là ils prennent conscience, et dès qu'ils prennent conscience, ils se disent, je suis en danger, les gens vont me savoir, on est tous espionnés les uns les autres, et ça peut durer longtemps l'exfiltration.
L'exfiltration peut durer plusieurs mois. C'est un processus, vous le rappeliez, Frédéric, très délicat, très complexe, qui se joue dans une relation de confiance unique avec un agent de Souaraka, cette brigade militaire, infiltré.
Qui risque beaucoup, lui aussi.
Qui risque sa vie, comme les déserteurs, bien sûr, qui est infiltré dans Raqqa et qui va donc organiser, avec beaucoup de patience et de précaution, le départ d'abord de la ville de Raqqa vers une autre ville syrienne sous contrôle de l'armée syrienne libre, puis en général vers Alep, et d'Alep vers la Turquie, notamment la ville de Sanlurfa ou la ville de Gaziantep. Mais rien que le passage de la Syrie, d'une zone contrôlée par les rebelles, l'opposition, en Turquie, peut prendre également des semaines ou des mois. Donc un processus très dangereux et très complexe.
Les Thessaloniciens le savent, ils ont essayé de piéger Souaraka.
Bien sûr, le temps du tournage à Sanlurfa, trois membres de Souaraka ont été tués, décapités, dans la ville de Sanlurfa par un commando de Daesh qui s'est infiltré.
Alors, il raconte ce qui se passe, le déclic, bien sûr, qui fait qu'ils veulent déserter. Ils vous disent également que lorsqu'ils arrivent, ils ont le sentiment d'être dans un aéroport, tellement il y a de nationalités. Ils vous parlent des routes où tous les kilomètres, il y a des têtes séparées de leur corps, des gens décapités, que les enfants voient. Ils vous parlent également de l'embrigadement, de la préparation religieuse.
Oui, l'embrigadement religieux, qui est le premier embrigadement avant la formation militaire, qui est une autre forme d'embrigadement, probablement. Et donc, il faut bien savoir que ces déserteurs sont tous, vous le rappeliez, syriens, trois syriens et un jordanien. Donc, ils ont été élevés au son et à la puissance autoritaire du régime, soit de Bachar al-Assad, soit de son père, Hafez al-Assad. Donc, ils avaient une certaine habitude. Et malgré cela, l'embrigadement donc religieux, cette tenaille qui s'abat sur eux, ils ont tous été surpris par le discours qu'on leur demandait d'apprendre, et notamment comment reconnaître donc le koufar, le mécréant, puisque l'État islamique leur disait clairement, un musulman n'est pas un bon musulman uniquement parce qu'il fait le jeûne, le pèlerinage, etc. Non, les musulmans qui n'appartiennent pas, ne sont pas membres du groupe État islamique, ne sont pas de bons musulmans, et donc ils sont autant ton ennemi que les autres. Voilà. Et ça, c'est un moment qui les a tous véritablement marqués.
Alors, il y a aussi un autre aspect, Souaraka fait un travail très fort, très, très profond, puisqu'il filme tout. Les rues, les villes et surtout les combattants de l'État islamique. Et ils disent que ces films sont précieux. Ils le sont, ces films précieux, lorsque la guerre aura pris fin.
Oui.
Ils vont faire quoi ?
Ils sont déjà, alors ça peut paraître paradoxal vu l'état du dossier syrien cinq ans plus tard, en mars 2016, mais ils sont déjà tournés vers l'avenir, véritablement. Et un combattant de Souaraka peut tomber, un autre va prendre le relais pour continuer à documenter dans la perspective, ils le disent très clairement, d'un procès ou d'une saisie de la Cour pénale internationale, par exemple, contre le Daesh, oui, contre aussi le régime de Bachar al-Assad.
Parce qu'il est contre les deux. Ils pourront dire, toi, tu étais dans le groupe État islamique.
Dans le groupe voilà État islamique, à Raqqa, de telle date à telle date, avec telle position, tu as commis tel acte. Voilà, documenté dans la perspective de procès, oui.
Alors, Souaraka est aussi en contact avec les ambassades étrangères.
Ils essaient.
Comment ça se passe? Ils leur disent, voilà, il y a un ressortissant de chez vous qui veut partir, on vous l'amène?
Oui, oui, alors ils essayent en tout cas d'être au contact. Si on prend, voilà, prenons le cas d'un Français par exemple, si un Français a été exfiltré par ce groupe-là, Souaraka après donc ce qu'ils appellent un security checking, donc un entretien de sécurité pour vérifier la véracité de l'histoire de ce Français combattant de Daesh qui vient de déserter le groupe. Souaraka donc après cette première étape de vérification contacte les services diplomatiques français à Ankara pour dire, voilà, telle personne est présente, on veut vous la remettre. Mais Souaraka nous disent qu'à chaque fois, ils n'ont jamais fait mouche. Les ambassades françaises ou les autres, d'ailleurs, leur ont dit, non, non, qu'ils restent en Turquie, ils sont très très bien là-bas, surtout, ils ne rentrent pas en France. Et donc, la plupart du temps, soit cet ex-combattant de Daesh file par ses propres moyens, essaie de rejoindre l'Europe et la France, clandestinement, soit il se fait prendre par les services de renseignement turcs. Mais il tente, à chaque fois, nous disent-ils, d'entrer en contact avec ses services diplomatiques.
Merci François-Xavier Trégan avec Thomas Dandois, ce film Daesh, parole de déserteur. Claude Guibal, ce documentaire vous inspire quelle réflexion?
Qu'il faut aller voir et aller voir en face et écouter, recueillir la parole, essayer de comprendre même ce qui nous est totalement incompréhensible.
C'est compliqué, c'est plein de nuances. On va parler de votre livre que vous publiez chez Stock, Islamistan, visage du radicalisme. Alors il s'agit de plusieurs rencontres que vous avez faites et avec lesquelles vous avez maintenu le contact pendant
20 ans.
20 ans, lorsque vous arrivez au Caire en 97.
C'est ça.
pour Radio France déjà.
Et
vous avez poursuivi à votre retour à Paris. Alors vous nous dites le mot islamiste est trop vague. Finalement, il ne reflète pas du tout la réalité et la complexité.
Après avoir vécu 15 ans d'affilée au Proche-Orient, oui, en rentrant en France il y a quelques années, c'est à ce moment-là que j'ai compris que le mot islamisme, islamiste, était un mot fourre-tout dans lequel on balançait de façon indistincte des profils qui se ressemblent pas nécessairement. Un député de l'AKP est un islamiste, un djihadiste est un islamiste, une fille qui porte un voile est une islamiste, un frère musulman, un salafiste, sauf qu'un frère musulman et un salafiste, allez dire un frère musulman qu'il est salafiste, il va grimper au plafond, enfin bref. Et que tous ces gens-là, si vous leur dites vous êtes islamiste, ils vous disent pardon, un quoi ? Parce que même le mot islamiste n'est finalement entré dans le vocabulaire arabe que très très récemment. Les gens vont vous dire je suis un vrai musulman, voilà. Et pendant 20 ans, j'ai essayé d'aller poser les questions en face, le plus près possible, à des gens dont les parcours religieux se sont approchés du fondamentalisme. Et quand ils étaient fondamentalistes, j'ai essayé de voir qu'est-ce qui faisait qu'on pouvait basculer dans le radicalisme, c'est-à-dire dans le passage à la violence. Ce que j'ai pu observer, par exemple, moi aussi, en Syrie, pendant la guerre en Syrie, en 2012, où j'étais dans des villes notamment comme Marat Anouman ou Azaz, et où à ce moment-là commençaient à se mettre en place des tribunaux islamiques dans certaines villes, donc aller voir, essayer de comprendre comment à un moment on bascule et qu'est-ce qui est aussi et qu'est-ce qui pousse à cet appel à l'islam au-delà d'une pratique religieuse classique, qu'est-ce qui fait qu'à un moment tout le religieux prend tout l'espace.
Il reste une part de mystère, je pense à Samar, cette jeune femme que vous avez rencontrée, dont vous faites le portrait. Vous nous dites elle court en oubliant son niqab, et puis finalement, lorsque vous voulez la rencontrer, elle est visiblement ouverte, et puis vous voulez la réinterviewer, et puis là elle vous dit « c'est pas possible ».
Oui, Samar, je l'ai rencontrée pendant la révolution égyptienne au Caire, avec son niqab. Comme beaucoup de gens, elle faisait partie de ces gens qui venaient manifester sur la place Tahrir, et qui ont beaucoup surpris les publics européens, occidentaux, qui d'un coup voyaient ces femmes en niqab manifester à côté des chrétiens, machin, etc., contre Moubarak. Et je me souviens avoir très longuement discuté avec cette femme, discussion assez âpre parfois, pour essayer de comprendre. Bon, elle était salafiste, et puis on était pendant la période révolutionnaire, elle était pleine d'espoir, elle me disait voilà, on va enfin connaître la liberté, etc. Et un an plus tard, je suis à nouveau sur la place Tahrir, au moment où on annonce les résultats de l'élection de Mohamed Morsi. Alors, il faut savoir qu'effectivement, auparavant, Samar m'avait téléphoné le soir de la chute d'Hosni Moubarak. C'est elle m'a appelé peut-être 5 minutes après qu'on ait appris la chute de Moubarak, et elle me dit « Tu n'imagines pas, je suis tellement heureuse, je pars, je vais vers la place Tahrir, je suis tellement émue, j'en ai oublié mon niqab. » Et donc, j'explose de rire, et quand un an après, Morsi est élu, immédiatement, je me dis « Je vais l'appeler. » Je suis sur la place Tahrir, il fait un bruit, le bruit hallucinant, il y a des centaines de milliers d'hommes qui sont en train de hurler à la Wakbar, et moi j'appelle cette femme, et alors elle me dit « Mais je suis tellement heureuse, je suis contente, tu peux pas savoir, etc. » Et moi j'essaie de prendre des notes, de suivre ce qu'elle me dit, je dis « Écoute, il faut qu'on se voit. » Et là, il y a un silence au téléphone, elle me dit « Ah, je vais demander à mon mari s'il est d'accord. » Et cette femme qui me disait « Une révolution, on ne sera plus jamais pareil. Aujourd'hui, j'ai goûté le goût de la liberté, cette femme ne m'a jamais revue parce que son mari ne l'a pas autorisé. » Donc j'ai voulu, à travers tous les portraits, voilà, des gens que je raconte, montrer qu'on peut aller dans un sens ou dans un autre. Je raconte aussi comment certaines personnes se sont éloignées, ont pris leur distance. Je veux dire, l'islamisme n'est pas un monolithe. L'islamisme n'est pas non plus figé dans le temps. On est le produit d'une éducation, d'un pays, d'une culture, etc. Et on change. On change dans un sens ou dans un autre, et j'ai essayé de regarder toujours les gens en face, comme d'autres moi-même, et leur poser les questions le plus honnêtement possible.
Merci Claude Guibal, Islamistan, visage du radicalisme chez Stock. Le clin d'œil de l'émission, avant de se séparer, entre fiction et réalité, vous reconnaîtrez des extraits du film Spotlight, le clin d'œil de Yacine Bouzard.
Un prêtre de Boston a abusé d'enfants dans 6 paroisses différentes ces 30 dernières années. Les autorités de l'église l'ont appris et n'ont rien fait.
Y a-t-il prescription ou pas ? Prescription juridique, peut-être, le droit va le dire.
L'Église jettera toutes ses forces dans la bataille.
La majorité des faits, grâce à Dieu, sont prescrits.
D'après nos infos, vous avez négocié plusieurs affaires avec l'Église.
Je le rencontre pendant une bonne heure dans une pièce. Il a reconnu tous les faits. La personne du conseil épiscopal qui était avec moi nous a demandé que l'on se prenne par la main. Nous avons récité Notre Père et Je vous salue Marie.
Quand un prêtre fait attention à vous, c'est pas rien. C'est difficile de dire non à Dieu.
On avait extrêmement peur d'un homme qui vous prend dans ses bras, qui vous embrasse de partout avec la langue et qui vous force à le caresser. Vous imaginez bien la peur d'un enfant dans ces conditions-là.
Ils tenteront de faire taire tous ceux qui parlent.
C'est un acharnement, je pense, sur l'Église même. Vous savez pas le fond des choses.
6% passe à l'acte.
6%, ça fait 90 prêtres.
Si on avait autant de ces enfoirés, vous pensez bien que ça
se
saurait.
Peut-être que ça se sait.
Cette affaire est un révélateur de la pratique de l'omerta et...
Ils ont laissé faire. Ça aurait pu être toi, ça aurait pu être moi, ou n'importe quel d'entre nous.
La majorité des faits, grâce à Dieu, sont prescrits.
Merci à tous. L'émission se termine. J'ai eu le plaisir de recevoir ce matin Claude Guibal, grand reporter à France Inter, pour son livre « Islamistan, visage du radicalisme chez Stock ». François-Xavier Trégan, journaliste et auteur avec Thomas Dandois du documentaire « Daesh, parole de déserteur » diffusé sur Arte. Georges Malbruno, grand reporter au Figaro, votre dernier livre avec Christian Chesneau, « Les chemins de Damas, le dossier noir de la relation franco-syrienne » est publié chez Robert Laffont. Merci aussi à Jean-Pierre Perrin, grand reporter à Libération, spécialiste du Moyen-Orient. Je rappelle votre dernier livre, La mort est ma servante, lettre à un ami assassiné, publié chez Fayard. Omar Waman était également avec nous en duplex de Beyrouth, correspondant de Radio France et de France Culture au Liban. Notre regard extérieur aujourd'hui qui nous a accompagnés, Fabrice Lorvaux, avocat spécialiste du droit des médias. Le clin d'œil de la semaine de Yacine Bouzard dans les coulisses de l'émission. Mathias Mégy, Vincent Abouchard avec aux manettes aujourd'hui, Jacques Hubert. Dans un instant, le journal d'Anne Fauquemberg, suivi de répliques, le nouveau visage de l'Europe centrale. Alain Finkielkraut reçoit Jacques Rupnik et Alexander Smolar. C'était Le secret des sources sur France Culture, à retrouver sur franceculture.fr. Rembobinage, le journal, réplique. Bonne journée sur Culture.
Tous les journalistes ayant été dans les zones rebelles, alors ils disent pas rebelles, ils disent zones terroristes, tenues par les terroristes, eh bien, sont des journalistes qui sont persona non grata à Damas.
Moi, j'ai dit au Figaro, attention, ce régime, c'est un régime de brutes. Et donc, ils vont tenir, et donc, ils vont pas tomber demain.
Quand on s'informe avec les reporters syriens, il faut leur donner les moyens au maximum de leur travail, de recevoir les informations que sont souvent aujourd'hui les seuls à pouvoir nous faire parvenir dans certaines zones.